Voici le journal d'Emmanuel Grabé. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à toutes et à tous.
Rassembler le pays et commencer à travailler dès aujourd'hui. Joe Biden ne veut pas perdre une minute, il l'a dit cette nuit.
Oui, lors d'un discours dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. Décryptage dès le début de ce journal. L'annonce de son élection hier a provoqué une explosion de joie de ses partisans. Exemple dans les rues de New York. Alors que Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite, ses avocats promettent une lutte acharnée en justice. On va voir aussi ce que l'élection de Joe Biden va changer ou pas dans les relations entre la France et les États-Unis. Et puis, la France passe le cap symbolique des 40 000 morts de l'épidémie de Covid-19. Jean Castex était à Saint-Étienne hier auprès des soignants épuisés et démunis.
À 7h50, nous ferons le tour des correspondants au Proche-Orient et en Europe, Londres et Berlin. Et puis à 8h20, Nicole Bacharan, notre invitée, politologue et historienne spécialiste des États-Unis, avec Jean-Marc Four, directeur de la rédaction internationale de Radio France.
France Inter.
Il n'aura le pouvoir que dans 73 jours, le 20 janvier prochain. Investiture de Joe Biden, 46e président des États-Unis. Pour l'heure, il n'est que président élu, mais il endosse déjà pleinement la fonction. La preuve, cette nuit, avec sa première prise de parole depuis l'annonce de sa victoire, c'était dans sa ville de Wilmington, dans le Delaware. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez suivi ce discours. Un maître mot, le rassemblement.
Oui, dans ce discours de victoire hier soir, Joe Biden s'est même adressé directement aux supporters de Trump. À tous ceux qui d'entre vous ont voté pour le président Trump, je comprends votre déception, a dit le président élu. Moi aussi, j'ai connu des défaites politiques, mais donnons-nous une chance. Biden, le démocrate, se veut donc rassembleur. Il veut guérir ce pays divisé. Il ne voit pas des États rouges et des États bleus, mais bien les États-Unis d'Amérique. Main tendue donc aux électeurs républicains, alors que le président sortant, Donald Trump, ne l'a, à l'heure où on se parle, toujours pas appelé pour concéder sa défaite. On ne sait pas d'ailleurs s'il a prévu de le faire ou non.
Et visiblement, Joe Biden ne se préoccupe pas de la vie de Donald Trump. Il se met au travail dès aujourd'hui.
Oui, ça aussi, il l'a dit dans son discours hier soir. Dès lundi, dès demain, mise en place d'une cellule de crise sur l'épidémie de coronavirus, des experts et des scientifiques et qui vont conseiller le futur président et préparer un plan que Biden veut appliquer dès son premier jour à la Maison-Blanche le 20 janvier. La gestion du Covid sera la priorité de son début de mandat et de la période de transition qui s'ouvre. 2 mois et demi durant lesquels le président élu Biden va devoir composer son administration pour voir tous les postes au sein de la Maison-Blanche, préparer 4000 nominations présidentielles à des postes clés et puis aussi se préparer à gérer une centaine d'agences fédérales.
Grégory Phillips, envoyé spécial permanent de France Inter aux États-Unis. La victoire de Joe Biden, c'est aussi évidemment celle de sa colistière Kamala Harris sur scène à ses côtés cette nuit. Kamala Harris, première femme et première personne de couleur à accéder à la vice-présidence des États-Unis. Après des mois à subir les attaques aux tonalités racistes de Donald Trump, la Californienne de 56 ans s'est livrée hier à un éloge de Joe Biden et une critique en creux du président sortant.
Vous avez envoyé un message clair. Vous avez choisi l'espoir, l'unité, la décence, la science. Et oui, la vérité. Vous avez choisi Joe Biden comme le prochain président des États-Unis d'Amérique. Et Joe, c'est un soigneur, quelqu'un qui unit. Quelqu'un de fiable, qui a fait ses preuves, une personne qui a déjà traversé des épreuves de chagrin, quelque chose qui l'a rendu plus fort, qui nous aidera en tant que nation, qui nous aidera à retrouver le sens de notre nation.
Kamala Harris, la future donc vice-présidente des États-Unis.
Et c'est donc l'État de Pennsylvanie qui a mis un terme hier à cette élection présidentielle un peu folle.
Après 4 jours d'attente, d'angoisse et de stress, vers 17h30 heure française, les médias américains annoncent que les 20 grands électeurs de cet État vont à Joe Biden. De toutes les grandes villes américaines, la même clameur, les mêmes concerts de klaxons, les mêmes rassemblements spontanés, partisans du président élu et ou opposants au président sortant exultent. Benjamin Ely était dans les rues de Brooklyn à New York au moment fatidique.
Alors, ça se passe comment dans Brooklyn ? Ok, c'est la folie. Les gens aux fenêtres qui applaudissent, concert de klaxons. Là, il y a cet homme déguisé en Oncle Sam.
Uncle Sam, yeah, dressed as Uncle Sam.
Oncle Sam, oui.
Lady Liberty is not too far from here, and
la statue de la liberté n'est pas très loin et la démocratie est forte.
Amazing, amazing.
C'est génial.
Democracy works.
C'est génial, la démocratie fonctionne.
J'ai trouvé un franco-américain. Votre prénom ?
Michael.
Votre âge ?
36.
Vous avez voté, ça fait 3 élections présidentielles auxquelles vous participez aux États-Unis.
On avait marre, 4 ans ça a été long. 4 ans d'absurdité, 4 ans de tweets, 4 ans de médiocrité, d'égoïsme, de racisme, de xénophobie, de séparation d'enfants avec leurs parents.
Un mot pour décrire ce que vous voyez ?
C'est la vie. La vie est belle.
Et alors que les Américains, les partisans de Joe Biden font la fête, le président élu reçoit des messages de félicitations des dirigeants du monde entier. Mais une voix manque à ce concert de reconnaissance, la plus importante, celle de Donald Trump lui-même qui refuse de concéder sa défaite. Il parle toujours de fraude électorale et affirme par communiqué que l'élection n'est pas terminée. L'un de ses avocats, Rudy Giuliani, confirme dans une conférence de presse des recours en justice à venir, notamment concernant des bulletins de vote qui auraient disparu.
Comme un ennemi me l'a dit, je ne crois pas dans la théorie du complot, mais je ne crois pas non plus dans les coïncidences. C'est assez amusant de voir que tous les républicains ont été rejetés, que tous les républicains ont été écartés à Pittsburgh. Et on se dit, oh, il y a eu 700 000 bulletins d'avance pour Trump il y a quelques jours. Ces bulletins ont disparu, tout simplement. Cette avance a été effacée. Et nous n'avons aucun moyen de savoir ce qui s'est passé, car nous n'avons pas eu le droit d'inspecter ces bulletins. Nous n'avons pu voir s'ils étaient réguliers ou non. C'est inédit, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel et nous allons intenter une action en justice pour contester ce résultat. J'insiste sur un point. Cela ne représente qu'un recours et qu'une irrégularité dans ces élections. Il y en a bien d'autres.
Rudy Giuliani, l'un des avocats de Donald Trump.
Et vu de France, c'est une nouvelle page des relations diplomatiques qui s'ouvre avec les États-Unis.
Donc. Avec un président au style radicalement différent de Donald Trump, une nouvelle relation avec ses avantages et ses inconvénients, Simon Le Baron.
Premier avantage, la stabilité. Joe Biden sera plus prévisible que Donald Trump, décrypte soulagé un proche d'Emmanuel Macron. Quand il dira oui, ce sera oui. Quand il dira non, ce sera non. On sera loin du comportement souvent erratique et provocateur du milliardaire républicain. Deuxième avantage, le retour à une certaine forme de multilatéralisme. Après 4 ans d'America First, où l'on a vu Donald Trump claquer la porte des instances internationales ou menacer de le faire, son successeur démocrate s'engage à réintégrer, dès le premier jour de sa présidence, l'accord de Paris sur le climat. Mais la victoire de Biden a aussi ses mauvais côtés pour Emmanuel Macron. Explication d'un fin connaisseur de l'Élysée et de la Maison-Blanche, Trump, l'isolationniste, avait contribué à souder les Européens et donc à faire du président français le leader, avec Angela Merkel, d'une Europe plus unie entre Pékin et Washington. À l'arrivée, le changement de président américain va-t-il bouleverser la relation entre la France et les États-Unis ? Sans doute pas. Les deux pays resteront des alliés et Washington fera toujours passer ses intérêts en premier.
Et vous retrouvez sur franceinter.fr, évidemment, un dossier complet sur ces élections américaines.
Et dans cette matinale, évidemment, la suite de notre édition et émission spéciale États-Unis. En France, l'actualité, c'est le Parlement qui a adopté hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire.
Prolongé jusqu'au 16 février, alors que la France a dépassé les 40 000 décès liés au Covid-19 depuis le début de l'épidémie. 306 morts ces dernières 24 heures. Au même moment, le Premier ministre Jean Castex était en visite à l'hôpital de Saint-Étienne, très attendu par des soignants qui espéraient un électrochoc dans la population et plus de moyens pour exercer leur métier. David Valverde.
Le Premier ministre est arrivé dans un hôpital de Saint-Étienne fatigué par des semaines de combat contre le virus et effrayé par sa propagation à vitesse grand V dans la métropole. Une visite du SAMU pour Jean Castex et d'un service de réanimation.
Par exemple, nous en réanimation sur la Loire, on a 200 lits de réanimation. On ne peut pas dédier 200 lits au Covid, ça n'est pas possible.
Et donc la solution, c'est d'empêcher les flux, c'est-à-dire de traiter en amont pour stopper
On est parfaitement
l'épidémie d'accord. par les mesures barrières qu'on a prises.
La seule solution est là.
La seule solution est là. Voilà.
On est bien d'accord.
Voilà, vous l'entendez, il y a toujours des gens qui disent on n'a qu'à augmenter le nombre de lits, c'est pas possible. Non.
Pendant ce temps, les collaborateurs du Premier ministre recevaient le collectif Interhôpitaux pour recueillir leurs témoignages. Rien de concret pour soulager les soignants, explique l'une des membres, le docteur Pascal Auriol.
Concrètement, non, on nous a proposé de l'écoute, on nous a proposé d'avancer sur le Ségur, mais concrètement, je me tourne vers mes collègues, non, mais bon, en même temps, on s'y attendait pas vraiment.
Enfin, pour le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, très critique envers la politique gouvernementale depuis des semaines. Au-delà des remerciements, au-delà des encouragements, il faudra maintenant des moyens pour les soignants stéphanois, au risque que l'hôpital craque au pire des moments. David Valverde, France Bleu, Saint-Étienne-Loire pour France Inter.
Eh bien, 7h40 sur France Inter.
C'était le journal d'Emmanuel Grabé. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski, les orages déclinent en Méditerranée.
Ah, exactement, et d'ici quelques heures, l'activité orageuse aura totalement disparu, y compris sur les Bouches-du-Rhône, encore maintenues pour l'heure en vigilance orange, orage, pluie, inondation. Aujourd'hui, dans une ambiance calme, les maximales vont afficher un bon niveau de 15 à 18 degrés dans la moitié nord, jusqu'à 20 sur l'Auvergne, le Poitou-Charentes, le long de la Garonne et près de la Méditerranée, avec un soleil durable entre les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, un ciel beaucoup plus gris sur l'Alsace, le Languedoc et le Roussillon, avec un peu de pluie sur les Cévennes. Sur le reste du pays, temps assez variable, tantôt ensoleillé, tantôt plus gris, avec des ondées probables du nord de la Loire à la Belgique et de la Bourgogne au Dauphiné.